Deuxième partie. Chapitre 22. Le chemin de terre était nettement marqué. Le panneau indiquant Farley Down se trouvait là où on m'avait dit, et il me fut assez facile de suivre le sentier contournant le bois, même dans l'obscurité qui s'intensifiait. Enfin, lorsque je parvins devant le portail, aucun doute, les deux aigles menaçants étaient bien à leur poste. Mon cœur se serra. J'allais entrer dans la maison d'enfance de ma mère. Combien de fois avait-elle dû passer entre ces deux piliers érodés par le temps? Peut-être même avait-elle inventé des noms aux deux rapaces si intimidants qui montaient la garde et avaient dû la fixer de leurs yeux perçants comme ils me fixaient ce soir. N'importe quelle créature est inquiète devant l'inconnu. Alors je m'engageai dans l'allée envahie de mauvaises herbes. Des oiseaux s'envolaient affolés et des couinements d'effroi jaillissaient des forêts. Mais je sortis bientôt d'entre les arbres pour déboucher sur une vaste pelouse. La maison était facilement reconnaissable. C'était la maison de poupée grandeur nature, sauf que le lierre la recouvrait presque entièrement. Quel curieux sentiment j'éprouvais à me trouver devant elle. Avais-je rétréci au point de n'être guère plus grand que mes poupées? Pour parfaire l'illusion, la lune sortit de derrière un nuage, et ce fut comme si je revivais soudain toutes les nuits où je m'étais glissé dans la peau de Hal, ce garçon solide, courageux et prêt à n'importe quelle aventure. Étais-je vraiment retourné en enfance? Les événements tumultueux des derniers mois n'avaient-ils été qu'un rêve? Je me tenais là, subitement désemparé, ne sachant plus que penser, lorsque sous le portique, la porte d'entrée monumentale s'ouvrit. En sortit un monsieur à la démarche souple, qui s'arrêta et regarda autour de lui l'air de se demander si le temps se prêtait à une promenade nocturne. Quoiqu'il parût assez jeune, il ne devait être guère plus âgé que le docteur Marlowe. Il avait les cheveux presque blancs. À part cela, je lui trouvais une allure en quelque sorte familière. Après tout, il s'agissait bien du capitaine Severn. Il pouvait y avoir un air de famille. C'était difficile à discerner, car sa silhouette se dessinait à contre-jour dans le rectangle de lumière de la porte. Je sortis de l'ombre. Il m'aperçut tout de suite. Son air pensif s'évanouit instantanément. Pendant un court instant, il parut stupéfait, puis son visage se dérida pour m'adresser un sourire accueillant. Serait-ce mon neveu? Daniel, n'est-ce pas? Enfin te voilà! Il traversa la pelouse et s'approcha, la main tendue. Thomas est donc bien allé te chercher à la gare, enfin, si on peut appeler cela une gare! Il jeta un coup d'œil à mon petit bagage. Tu peux laisser ton sac ici, Thomas se fera un plaisir de le porter dans la maison. Il était tellement aimable qu'il eût paru grossier de lui dire que si Thomas avait prévu de venir me chercher à la gare, son projet ne s'était pas concrétisé. Je serrai un peu plus fort la poignée de mon sac et secouai la tête. « Merci, mais il ne contient pas grand. Donc même un gringalet comme moi peut le porter, » coupa-t-il triomphant. M'arrachant littéralement le sac des mains, il fit demi-tour pour entrer par la porte en chêne sculpté que je reconnaissais parfaitement et pénétrer dans ce même vestibule, mais 20 fois plus grand, où j'avais si souvent promené mes doigts dans mes jeux d'enfant. Il était un peu trop tôt pour dire que la maison m'était familière. Aussi, je déclarai simplement « Quel endroit splendide !» Il rejeta la tête en arrière comme pour admirer le volume autour et au-dessus de nous. « Splendide, en effet ! Pourtant, sans toi, j'avais l'impression de brinque-baller dans cette maison comme un scarabée mort enfermé dans une bouteille. » Quelle horrible comparaison ! Le capitaine avait pourtant l'air assez enjoué. Il ouvrit une porte et lança un ordre qui se répercuta en écho. « Martha ! Notre jeune hôte est arrivé, et je suis certain que, comme tous les gamins de son âge, il a une faim de loup !» Il me donna une bonne tape dans le dos, puis me fit gravir le grand escalier tournant et traverser le palier jusqu'à la petite porte ronde située dans un renfoncement. Après avoir refermé le verrou, il me devança dans l'étroite volée de marche que je connaissais, celle qui conduisait au grenier. Ses pas lourds soulevaient de tels nuages de poussière qu'à l'évidence cet escalier n'avait pas été emprunté depuis des lustres. Je ne pus m'empêcher de me demander pourquoi, si mon oncle avait tant souffert de la solitude pendant toutes ces années, il avait décidé de me reléguer aussi loin du cœur de la maison. Il ouvrit la première porte qui donnait sur le couloir sans lumière. « Ce sera parfait » lança-t-il. Il jeta mon sac dans le lit, sur le lit qui semblait bancal, et marcha jusqu'à la fenêtre. « Regarde, tu as la plus belle vue de la maison. On domine toute la forêt jusqu'aux Downs. » Il se retourna pour me rassurer. « Tu seras bien ici. » Même si je n'ai aucun enfant de ton âge à te présenter, tu auras beaucoup de choses à faire. Je peux t'apprendre à chasser, à pêcher, tu sais. Tiens, je suis sûr que d'ici, on voit la rivière. sortant la tête par la fenêtre, il se tordit le cou, espérant probablement apercevoir les reflets de l'eau sous le clair de lune. J'en profitai pour parcourir la pièce des yeux. Piquetée par l'âge et l'humidité, l'abat-jour de l'unique lampe laissait filtrer très peu de lumière. Le toit mansardé était si bas que je risquais fort de me cogner la tête si je m'asseyais dans mon lit. Il y avait peu de tableaux au mur. Les draps de lit étaient propres, mais la chambre empestait l'humidité. On frappa discrètement à la porte. Je me retournai. Une vieille femme au teint cireux apparut sur le seuil, chargée d'un plateau où trônait une soupière, tellement énorme et ventrue que je m'étonnai que la dame eût trouvé la force de la monter. Dès que son regard croisa le mien, son visage perdit le peu de couleur qu'il avait. Craignant que le plateau ne lui tombât des mains, j'allais m'avancer pour le lui prendre et le poser en lieu sûr, lorsque le capitaine se retourna. La vieille femme était encore toute tremblante, mais il ne remarqua rien, car ses larges épaules faisaient obstacle au clair de lune qui éclairait jusqu'alors le visage ridé et bouleversé de la visiteuse. « Ah, Martha, tu apportes le souper au jeune homme !» Il souleva le couvercle de la soupière et leva un coin de la nappe à carreaux. « Une bonne soupe et un tas de petits pains tout juste sortis du four !» Il agita vers moi un doigt faussement menaçant. « Méfie-toi de Martha, mon garçon. Elle va tellement bien te nourrir que la prochaine fois que tu te regarderas dans un miroir, tu croiras voir un petit tonneau. » Martha inclina la tête pour le remercier du compliment et sortit. Le capitaine se retourna vers moi et avança ses deux énormes mains pour saisir une nouvelle fois les miennes. « Bon, assez bavardé. Demain, j'aurai tout le temps d'entendre ton histoire. Ce soir, contente-toi d'expédier ton souper et de poser ta tête sur l'oreiller pour partir dans tes rêves. »